parler dans la question du jour que nous vous posions hier. Et bien, c'était donc la question suivante. Trouvez-vous dangereux que le Qatar finance la reconstruction de Gaza? Alors, Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs et qu'en pense votre invité?
Alors, nos auditeurs ont pensé que oui, il y a une large majorité. On est à 86% de oui sur Facebook. On était aussi à une large majorité sur Instagram. Je vais vous dire tout de suite quel est le score exact. C'est pareil, c'est 86% de oui. Et sur X également, on va demander son avis à notre invité. David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. Est-ce que vous aussi, vous trouvez quelque part que c'est dangereux que le Qatar finance la reconstruction de Gaza quand on sait que c'est déjà lui qui a financé des mouvements terroristes comme le Hamas?
Oui, mais le Qatar aujourd'hui n'est pas du tout dans la même configuration. D'abord parce qu'il a servi de médiateur incontournable dans le cadre des négociations sur la libération d'otages. Il faut se souvenir que lors de la première trêve, il avait eu un rôle considérable. Donc effectivement, il y a le passif du lien entretenu entre Doha et le Hamas. D'abord, il faut rappeler que le bureau politique du Hamas est à Doha, justement. Et puis rappeler que le Qatar finançait à raison de 30 millions de dollars par mois, avec l'accord tacite d'Israël, il faut quand même le signaler, le transfert effectivement de cet argent pour les salaires, notamment des fonctionnaires donc liés au Hamas dans l'enclave avant la catastrophe du 7 octobre, pour éviter une explosion justement socio-économique de l'enclave. Donc il y a évidemment une relation singulière, on va dire, pour euphémiser, entre le Hamas et le Qatar. Mais aujourd'hui, le Qatar s'est présenté comme un négociateur incontournable avec l'Égypte. Et de toute façon, tout état de cause, le Qatar ne sera pas en mesure de financer à lui seul une éventuelle reconstruction, puisque de toute façon, dans le cadre d'un plan arabe qui a été présenté par l'Égypte, justement, en mars dernier, il y a une somme de quelques 50 milliards de dollars qui serait nécessaire pour justement cette reconstruction. Ce n'est pas le Qatar à lui seul qui pourra y parvenir.
Alors justement, si on parle des autres personnalités, pays pardon, potentiels qui pourraient participer à cette reconstruction de Gaza, il y a les Émirats arabes unis, il y aurait peut-être aussi l'Arabie saoudite. Qui d'autre potentiellement, David Rigoulet-Rose?
Oui, c'est essentiellement les pétromonarchies que vous évoquez, évidemment, parce que c'est elles qui ont la manne financière. L'Égypte aurait un rôle éventuellement dans cette reconstruction, mais dans le cadre d'ingénierie et pas de financement. Donc, y a l'idée, effectivement, qu'il y ait un volet financier massif qui puisse être envisagé. Mais dans le plan arabe, il avait été signifié notamment par les principaux intéressés que vous évoquez, en l'occurrence les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, que ce financement ne pourrait se concevoir que justement après la mise à l'écart du Hamas. Et là, on retrouve le Qatar, parce qu'évidemment, c'est la proposition du Qatar laisse supposer que cette suggestion de financière du Qatar sera bien vue par le Hamas, justement, que ça sera pour le Hamas une garantie pour un éventuel jour d'après, pour éviter une totale disparition. Donc la situation évidemment est très compliquée.
Alors, c'est même pire que ça, David Rigoulet-Rose, puisque selon Ynet, un média israélien, le Qatar pourrait même commencer à financer cette reconstruction de la bande de Gaza dès la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et ça permettrait, ça aurait été d'ailleurs la volonté du Hamas, ça montrerait selon eux une garantie israélienne de mettre fin au conflit. Et là, pour le coup, l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis dont on parlait voudraient, eux, qu'il y ait une garantie claire de la fin des hostilités avant de dire ce qu'ils vont financer ou pas financer.
Oui, tout à fait. Une garantie claire de la fin des hostilités avec la mise à l'écart du Hamas, les deux étant indissociables. Ce qui n'est pas évidemment formulé comme tel par le Qatar. qui, comme vous l'évoquez, envisage éventuellement un financement avant même la mise en œuvre, effectivement, d'un cessez-le-feu définitif. Et ça, évidemment, ça va dans le sens du Hamas, parce que le Hamas verrait ça comme une option, une option justement à la fois pour favoriser ce cessez-le-feu et sa pérennisation par la suite. Donc, c'est là où le Qatar a une position singulière, effectivement. Il a été accusé à tort ou à raison, notamment par le Premier ministre israélien début mai 2025, de jouer un double jeu, une forme de duplicité. Et ça remonte évidemment à ce qui s'est passé avant le 7 octobre, mais avec quand même, je le rappelais tout à l'heure, l'aval tacite des autorités israéliennes pour le transfert de fonds à destination de l'enclave. Donc les choses sont compliquées. On le voit d'ailleurs dans la posture du président américain actuel, Donald Trump, qui, lors de son premier mandat, justement, avait été d'une grande sévérité à l'endroit du Qatar, en l'accusant d'être un financier du terrorisme, je cite, en 2017, justement, et ce qui avait justifié de la part des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite la mise au ban du Qatar, justement, du CCG, le Conseil de coopération du Golfe. Mais le même Donald Trump, aujourd'hui, a remercié le Qatar justement en mai 2025 pour l'aide qu'il a apportée dans le cadre des négociations et notamment dans les libérations particulières d'Edon Alexander. Donc on voit bien à quel point le Qatar sait se rendre incontournable dans une situation qui est éminemment complexe.
Oui, bien sûr. David Grigoulet-Rose, il y a quelques mois, la Ligue arabe avait voté un plan de reconstruction de la bande de Gaza et là, depuis, on ne les entend plus du tout. Est-ce que la Ligue arabe va pouvoir jouer un rôle ou est-ce qu'ils n'en ont pas les moyens, à votre avis?
Oui, alors c'est le fameux plan dit arabe hein, que j'évoquais tout à l'heure, qui était en réalité une contre-proposition à l'annonce spectaculairement scandaleuse de Donald Trump, qui évoquait justement une reconstruction avec une riviera justement pour l'enclave. Mais ce plan arabe, qui a établi un budget de l'ordre de plus de 50 milliards de dollars, effectivement. Validé par la Ligue arabe au Caire, hein, justement, début mars 2025, évoquer la nécessaire, justement, prise en compte d'une situation clarifiée pour le jour d'après. Et en l'occurrence, pour le statut du Hamas, qui doit être mise de côté au profit d'une administration par des technocrates pendant quelques mois avant le retour éventuel d'une autorité palestinienne revitalisée, réformée. Et donc, de toute façon, on bute sur le même problème. C'est la question de la disparition du Hamas pour le jour d'après. Et donc, c'est toujours cette question qui hypothèque, en fait, l'idée d'une reconstruction sur le long terme et qui pose le problème, effectivement, pour les États que vous évoquez, en l'occurrence les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.
Pour finir, David Rigoulet-Rose, la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni avaient également apporté leur soutien à ce plan de reconstruction supposé. Est-ce que vous croyez que l'Europe, là aussi, a les moyens de participer à la reconstruction de Gaza?
Oui, alors ça relève de toute façon du soft power européen. Traditionnellement, les Européens ont toujours été des contributeurs importants, hein, pour justement le soutien humanitaire, notamment aux populations de l'enclave. Ce n'est pas nouveau, mais là encore, ça ne pourra s'inscrire, en tout cas, il pourra y avoir une synergie avec un éventuel plan arabe de reconstruction, qu'avec la levée de l'hypothèque que constitue le Hamas aujourd'hui. Et on revient toujours au même problème, en réalité. Donc, c'est là où les choses ne sont pas clarifiées pour le fameux jour d'après.
Et là-dessus, on parle d'un plan en trois phases, et donc ça va prendre un petit moment quand même, puisqu'on dit à peu près 6 mois pour la première phase, c'est-à-dire vraiment l'aide humanitaire. Ensuite, la façon de reconstruire plus ou moins pendant 2, 3 ans minimum, et ensuite la nouvelle gouvernance de Gaza. Donc tout ça nous mène au moins dans 5 ans, a priori.
Oui, il y a une échéance, effectivement, une planification sur 5 ans. Mais en même temps, il y a des déclarations contradictoires, notamment de l'ambassadeur américain Mike Huckabee, qui est très proche justement de certains ministres du gouvernement de la coalition du Premier ministre, qui dit que de toute façon, c'est une éventuelle reconstruction ne peut pas se penser en seulement 4 ou 5 ans, mais demanderait 10 à 15 ans. Donc, on voit que les doutes sont largement partagés par l'administration américaine. Et là, on retrouve les éventuels calculs et les suggestions qui avaient été formulées par le président Donald Trump de favoriser effectivement un déplacement des populations à l'extérieur pour envisager une réelle reconstruction, ce que refuse justement le plan arabe pour éviter justement de valider la vision qui avait été formulée initialement par le président américain et qui est fermement soutenue par certains membres de la coalition du gouvernement israélien.
Merci beaucoup, David Rigoulet-Rose, d'avoir été
Merci.
avec nous ce matin pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient. Bonne journée à vous, à très vite.
Merci à vous.